A-t-on besoin d'un chef? C'est le titre de ce livre dont on va vous parler, paru chez Alary Édition. Son auteur est avec nous, Mehdi Moussaïd. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue dans cette émission et merci à l'équipe d'ici La Rochelle de vous accueillir dans leur studio et l'équipe de Samuel Prugnot, grâce à qui eh bien, vous êtes avec nous aujourd'hui. Chercheur à l'Institut Max Planck de Berlin, spécialisé dans l'étude du comportement des foules, vulgarisateur scientifique, on vous retrouve sur une chaîne incroyable qui s'appelle Fouloscopie. J'invite vraiment nos auditeurs à aller voir. Vos vidéos sont absolument fascinantes. J'ai failli ne pas pouvoir décrocher hier soir tant j'en ai regardé. Mais cet ouvrage est tout autant fascinant. A-t-on besoin d'un chef? Petit traité d'intelligence collective dans lequel, on ne spoil pas, hein, vous répondez tout de suite et rapidement, non, on n'a pas forcément besoin d'un chef, puisqu'il existe cette intelligence collective, mais qu'elle répond quand même à certaines conditions. D'ailleurs, vous le dites, hein, que ce soit une construction, un modèle hiérarchique, ou que ce soit un modèle d'intelligence collective, il y a des avantages et des désavantages, ou en tout cas
est-ce qu'on pourrait
des choses
travailler différemment.
Et puis parfois il faut pouvoir choisir les deux. Et finalement, tout le défi est là. L'enjeu, c'est de trouver la bonne stratégie au bon moment en fonction de l'objectif et de la nature du défi. Mais vous dites aussi, par réflexe, les humains s'accrochent au modèle hiérarchique. Et je me suis demandé, mais ça vient d'où ce réflexe?
Ouh là, vous commencez tout de suite avec la question difficile.
je pose les bases.
Ok, alors déjà, c'est une chose qu'on remarque. Hein. D'une manière générale, quand on organise des expériences, alors c'est des choses qu'on fait pour notre travail, on organise vraiment des expériences, on recrute des gens, on les met dans une salle face à un problème, et puis on regarde comment collectivement ils vont s'organiser, s'ils arrivent à être efficaces ou non. Et une chose qu'on remarque très souvent, c'est que même des inconnus, des gens qui se connaissent pas, eh bien, au bout de quelques minutes, il va y avoir une forme de hiérarchie qui va apparaître, c'est-à-dire que quelqu'un va un peu prendre les choses en main en disant bon, ok, allez les gars, il faut qu'on résolve ce problème, donc toi tu fais ça. Et puis finalement, il y a une pyramide, hein, une sorte de hiérarchie qui apparaît, et ça, c'est quasiment systématique. Finalement, moi, mon travail s'arrête un petit peu là. Je vais pas aller jusqu'à chercher d'où ça vient. La question est vraiment dure. A priori, c'est clairement culturel, c'est-à-dire qu'on grandit, on évolue dans une société qui est très hiérarchisée, et donc par réflexe, on va avoir ce modèle-là, et puis on va l'adopter quand on est un petit peu en difficulté. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus inné? On peut aller regarder les animaux sociaux, par exemple, et se dire, bon, bah, est-ce qu'il y a une branche de l'évolution qui fait qu'on est tous un petit peu organisés de manière centralisée autour de nous? Ça dépend. Chez certaines espèces de primates, c'est centralisé. Chez d'autres, c'est décentralisé. Clairement, chez les insectes sociaux, c'est décentralisé. Alors, on ne sait pas exactement d'où ça vient. C'est une question difficile.
Peut-être aussi, déjà, dès la base à notre naissance, puisque la famille a une construction, une forme de construction hiérarchique aussi, avec un pouvoir centralisé qui est celui des parents, on va dire, et qu'on grandit un peu aussi dans cet esprit-là, malgré tout, et de manière assez naturelle. Vous nous dites aussi, effectivement, que c'est les insectes, par exemple, ou les animaux plus sociaux, comme par exemple les fourmis, c'est ni Dieu ni maître. Je vous propose un extrait, justement, de votre chaîne YouTube.
Mais la réponse est oui, et elle nous vient des fourmis, justement, qui utilisent une méthode un peu différente qu'on appelle la stigmergie. Chacun fait ce qui reste à faire en fonction de ses compétences. Et si tout le monde a la même idée en tête pour le résultat final, eh bien ça fonctionne pas mal. La stigmergie, on la retrouve dans un projet collectif très très connu, c'est Wikipédia. C'est-à-dire qu'une première personne va se dire « Tiens, je vais commencer un article sur ce sujet », une autre va venir ajouter une photo, une troisième va corriger une faute, une quatrième va ajouter un paragraphe complet. Et à nouveau, il n'y a pas de chef, contrairement aux encyclopédies traditionnelles où il y a quelqu'un, un rédacteur en chef, qui a décidé comment allait être structuré l'article. Eh bien, dans Wikipédia, tout se fait de manière complètement décentralisée, par stigmergie, justement.
Alors, je voulais commencer par cet extrait, parce que je voulais justement montrer qu'à l'inverse, c'est peut-être plus naturel qu'on ne le pense d'utiliser l'intelligence collective à certains moments, et que ce n'est pas si compliqué que cela. On va voir, évidemment, avec vous, les conditions pour qu'une intelligence collective fonctionne, et puis les limites aussi de cette intelligence collective, mais je me suis dit, finalement, c'est peut-être plus naturel qu'on ne le pense, de sortir de cette structure pyramidale, d'une organisation centralisée, et que on le fait parfois même sans y penser.
Euh, je dirais quand même que la plupart du temps, on s'oriente vers une centralisation, et c'est ce que je vous dis quand on m'envoie une expérience. Il y a des cas de figure quand même dans la vie quotidienne où, sans y penser, comme vous dites, on va se retrouver dans un cas décentralisé. J'aime beaucoup l'exemple d'un groupe d'amis qui se retrouve dans une maison de vacances, par exemple. Okay. Donc, vous avez une dizaine de copains qui vont se rassembler dans une maison qu'ils connaissent pas, et puis finalement, il faut organiser le travail. Il y a plein de choses à faire, il faut aller faire les courses, préparer à manger, s'occuper des enfants, payer le loyer, etc. Et ce qu'on observe dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chef qui va venir coordonner tout le monde, c'est chacun qui fait ce que bon lui semble ou ce qui a l'air le plus urgent. Donc bah, moi j'ai pris en charge la préparation de l'apéro et quelqu'un me voit faire et il se dit bah tiens, ça c'est fait, donc moi je vais m'occuper de sortir les poubelles, etc. Et en fait chacun va ajuster son action en fonction de ce que les autres sont déjà en train de faire. Ça c'est de la stigmergie, c'est un vrai travail de fourmi au sens littéral, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça organise des colonies de fourmis. Et effectivement, là, s'il n'y a pas de chef, et c'est assez naturel, on le fait dans notre vie quotidienne. Donc des fois c'est le cas, effectivement, puis d'autres fois c'est plus complexe.
On va découvrir dans votre livre, tout au long de votre livre, que vous faites énormément d'expériences avec de vrais êtres humains à qui vous rendez aussi une forme d'hommage, puisque vous les remerciez quand même à la fin, mais que vous mettez dans des situations diverses pour essayer de comprendre justement comment peut fonctionner une intelligence collective et à quoi elle fait face quand elle se fragilise et pourquoi elle se fragilise dans certains cas et pourquoi dans d'autres cas elle est une véritable force. Mais quand on parle de l'intelligence collective, vous nous le rappelez aussi aujourd'hui, cette intelligence collective, je vous cite, elle est parfois perçue de manière un peu simpliste et se résume souvent à une organisation, à organiser un grand débat. Pire, dans certaines entreprises, cette notion peut prendre une dimension presque mystique. L'intelligence collective est une vague idée selon laquelle rassembler des employés dans un espace de coworking équipé d'un baby-foot suffirait à déclencher un flux créatif. Ajoutons à cela un cri d'encouragement, allez les gars, on se serre les coudes et l'affaire est pliée. Or, l'intelligence collective, ça se construit avec méthode. Est-ce qu'on a vraiment, effectivement, un peu trop eu faux en la matière, notamment en voulant transformer des entreprises sous le sceau de l'intelligence collective, mais avec tous les biais qu'on y mettait?
Un peu. En fait, quand je vais dans les entreprises, par exemple, il y a énormément de bonne volonté. L'intelligence collective, c'est un truc qui est assez attirant, où on se dit, tiens, on va essayer de s'organiser un petit peu différemment, on va essayer de décentraliser un peu. Les gens vont dans le bon sens, mais ils vont manquer de méthode. Et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait compréhensible, parce que finalement, ces méthodes, elles sont toutes récentes, même en science, même dans le monde académique, et elles sont un petit peu difficiles, un petit peu complexes, parfois à appréhender. Donc c'est tout à fait normal. Mais effectivement, quand je vais sur place, souvent, l'intelligence collective, on se dit bon bah nous on va faire d'intelligence collective, donc tous les vendredis on s'assoit tous ensemble dans une énorme salle, on discute pendant 3 heures et ça c'est de l'intelligence collective. Pas vraiment, c'est pas vraiment comme ça qu'on définit en science, et ça manque de méthode. D'ailleurs les grands débats souvent ça tourne un petit peu en rond parce que c'est pas assez structuré. Un grand débat citoyen par exemple, ça peut vite tourner en rond. Et il y a des façons de faire, et nous c'est des choses qu'on découvre au labo.
Et vous avez découvert énormément de choses, et la première chose que vous nous amenez à réfléchir quand on parle d'intelligence collective, c'est cette notion de diversité du groupe, et vous précisez que c'est de la diversité cognitive dont il faut parler dans ce cas-là. Alors, comment est-ce qu'on amène cette diversité, et quels sont justement les freins ou les obstacles à cette diversité, et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe?
Ok. La science d'intelligence collective est assez jeune, sur une échelle scientifique, elle a une vingtaine d'années, c'est très récent. Et clairement, la première grosse découverte qui a été validée et reconnue, pour laquelle il y a un consensus, c'est la valeur de la diversité. Encore, ça date du milieu des années 2000. On s'est rendu compte très très rapidement que quand on forme des groupes dans plein de types de problèmes différents, plein de situations différentes, si le groupe est plus diversifié, eh bien collectivement, il aura de meilleurs résultats que si le groupe est moins diversifié. Alors à nouveau, diversité, comme vous disiez, on parle de diversité cognitive, donc il faut que ce soit des gens qui ont des savoir-faire différents, des sources d'informations différentes, des formations... Des origines différentes, etc., qui pensent différemment. Et si vous avez un groupe diversifié, ça marche beaucoup mieux que l'inverse. Par exemple, naturellement, quand on est dans une entreprise, si vous êtes DRH et que vous recrutez des gens, eh ben, spontanément, vous allez vous dire, bah, moi, je vais aller chercher tous mes candidats qui sortent de la même école de commerce, par exemple. Eh ben, ça, c'est peut-être une erreur parce qu'ils ont suivi exactement la même formation, ils sont moulés dans le même moule. Et donc, par conséquent, il y aura moins de diversité. Vous aurez des individus qui sont très performants, possiblement. Mais collectivement, ça sera pas. Il y a un critère d'intelligence collective qui ne sera pas respecté. Et de manière intéressante, cette diversité de groupes, elle n'est pas du tout spontanée, parce qu'on se rend compte que quand on laisse les gens s'organiser comme ils veulent, très souvent, les gens vont s'assembler en groupe avec des gens, d'autres gens qui leur ressemblent. Si vous regardez autour de vous, par exemple, regardez vos amis et vous allez vous rendre compte que la plupart de vos amis sont un petit peu des clones de vous-même. Ils ont un peu la même tenue vestimentaire, un peu le même âge, ils votent pour les mêmes partis, etc. Ça s'appelle de l'homophilie, c'est cette tendance que nous avons, les humains, à nous entourer de gens qui nous ressemblent. Et ça, vous voyez que naturellement, ça réduit la diversité du groupe et donc ce fameux critère d'intelligence collective.
Et réduire la diversité du groupe, c'est s'enfermer dans des biais de croyances et des biais de croyances limitantes en particulier.
Ouais. Absolument. Les algorithmes sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, les algorithmes adorent faire ça. Ils adorent nous mettre en contact avec d'autres gens qui nous ressemblent parce que du coup on est content et eux ils peuvent avoir plus de rétention, donc ils nous gardent sur leur plateforme. C'est pas une bonne chose. On va vivre dans une sorte de bulle où on a l'impression que tout le monde autour de nous partage notre avis et que nécessairement ça doit être le bon avis puisque tout le monde le partage. Et en fait c'est pas tout le monde, c'est tout le monde dans cette petite bulle. Mais si on dézoome et qu'on regarde l'ensemble de la population, on se rend compte qu'il y a d'autres bulles par ailleurs auxquelles on n'est pas du tout exposé, où les gens vont avoir des avis radicalement opposés. Il y a énormément de biais de confirmation, donc je pense quelque chose, je regarde autour de moi, je vois que ça se vérifie avec tout ce qui est autour de moi, donc ça doit être vrai, c'est un biais de confirmation, sauf que ce qui est autour de vous, c'est pas représentatif de toute la population.
On va revenir avec vous sur quelques-uns des concepts que vous explorez dans cet ouvrage et essayer de comprendre quelles sont les bonnes conditions pour une intelligence collective efficace qui fonctionne. Je ne vais pas dévoiler les tests que vous proposez aussi aux lecteurs de passer parce que vous nous posez à nous-mêmes des questions auxquelles on sait plus ou moins répondre. Et puis vous décortiquez un peu les expériences que vous faites avec ces personnes pour nous amener à comprendre ces concepts. Et bien, on va revenir sur quelques.
Alors c'est intéressant, ça fait partie des choses qu'on observe quand on fait une expérience. Donc je vous dis, imaginez, on a une salle expérimentale, on recrute des participants, on les assoit autour d'une table et on leur donne un problème à résoudre, on ferme la porte et puis débrouillez-vous et venez me voir quand vous avez résolu le problème. Et là on regarde comment se passe la discussion. Et c'est assez fascinant à regarder parce que il y a toujours des gens qui sont un peu sûrs d'eux, qui vont avoir tendance à vouloir un peu pousser l'avis collectif en disant moi je suis convaincu que c'est ça la bonne réponse, et puis ils vont essayer d'argumenter. Il y a des gens qui parlent un petit peu plus aussi, beaucoup plus que les autres. Et la vraie question qu'on se pose immédiatement, c'est est-ce que c'est pertinent comme indice, ce sont des petits indices sociaux, est-ce que c'est pertinent de se dire je vais suivre la personne la plus confiante ou je vais suivre la personne qui parle le plus? Et la réponse c'est pas vraiment en fait. En particulier par exemple celle qui parle le plus, vous regardez s'il y a une corrélation entre parler beaucoup et avoir la bonne réponse, et il n'y en a pas. D'accord? Donc il y a des gens qui parlent beaucoup et qui ont la bonne réponse, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui n'ont pas la bonne réponse, et l'inverse. Donc tous les cas sont possibles, donc parler beaucoup, ça veut pas dire grand chose. De la même façon, le degré de confiance exprimé, c'est pas non plus un indice très fiable. Et il y a en particulier cette étude qui date un petit peu maintenant, qui a été réalisée par deux psychologues qui s'appellent David Dunning et Justin Kruger, où ils ont fait passer des tests à des gens, mais avant de leur faire passer le test, ils leur demandent d'estimer s'ils sont bons ou s'ils sont moins bons. Et après, ils leur font passer le test. Ce qui permet de mettre en corrélation cette sensation de confiance qu'on a avant le test avec le résultat du test. Et on se rend compte à nouveau que la corrélation est vraiment pas terrible. Donc il y a des gens qui ont un mauvais score au test qui vont avoir été beaucoup plus confiants avant, et puis d'autres qui ont un excellent score qui étaient peut-être un petit peu moins confiants. En général, les gens moins bons ont tendance un petit peu à se surestimer. Et les gens très bons ont tendance un petit peu à se sous-estimer, ce qui n'arrange pas notre affaire, puisque du coup, tout le monde est... Par exemple, si c'est assez amusant, mais si vous demandez aux gens dans une certaine population d'estimer leur niveau en conduite automobile, on en aime beaucoup faire cette étude parce que ça parle beaucoup, en conduite automobile, vous allez voir que 80% des gens vous répondent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Et ce qui est statistiquement impossible, on peut pas avoir 80% des gens qui conduisent mieux que la moyenne, ce qui signifie que la plupart des gens se surestiment. Et ça, ça nous aide pas beaucoup à reconnaître le vrai du faux dans un groupe, quoi.
Oui, vous avez vu le nombre de ces personnes qui sont capables de faire atterrir un avion si jamais c'était nécessaire.
J'ai vu ça et c'est marrant. D'ailleurs, c'est marrant que vous en parliez parce que les chercheurs qui étudient les biais cognitifs comme ça, on peut croire qu'ils sont vaccinés en quelque sorte. Ouais. Moi, en fait, je ne connaissais pas cette histoire et c'est ma compagne qui m'a posé la question et je lui ai répondu j'ai dit oui, je serais capable de faire atterrir l'avion sans aucun problème. Il suffit de tirer sur un levier, j'imagine. j'imagine, j'ai vu ça à la télé. Et en fait, je suis dès le premier à tomber dans le piège. Et c'est juste pour signaler qu'un biais cognitif, on n'est pas vacciné contre un biais cognitif. Même si on est au courant, c'est très difficile.
On va revenir sur un élément que vous abordez dans vos vidéos et faire le lien avec ce qui est dans le livre également. Alors, c'est pas vous qui vous êtes posé la question, mais vous posez la question de particulière dans cet extrait en particulier. De combien de personnes faut-il pour une révolution ?
Il y a un truc qui me fascine, c'est quand une seule personne dans la foule se met à faire un truc, et un peu plus tard, tout le monde fait pareil. Par exemple, chanter. Ou alors danser. Ou même applaudir. Pour, disons, lancer une hola dans un stade, eh bien, une seule personne, ça va pas suffire. Non, pour lancer une hola, il faut 30 personnes. Oui, 30 personnes. Ce nombre, ça s'appelle une masse critique. C'est pile le nombre d'individus nécessaires pour déclencher un mouvement collectif par effet d'imitation. On atteint alors un point de bascule où, d'un seul coup, tout le monde se met à faire la même chose. Alors, parfois, une seule personne sera suffisante, et parfois, il en faudra plus. Beaucoup plus. Mais alors, c'est quoi le point de bascule pour déclencher une révolution ?
J'invite nos auditeurs à aller découvrir la réponse de votre vidéo. Fulloscopie, c'est le nom.
Du point de bascule, donc c'est de ça qu'on parle. C'est pas nécessairement de l'intelligence collective, hein. Ça peut aller dans les deux sens, hein. On peut avoir un effet d'amplification avec un point de bascule sur des gens qui se ruent sur les distributeurs, par exemple, pour retirer de l'argent, ou dans les stations-service pour avoir suffisamment d'essence, etc., provoquant ainsi une pénurie, etc. Ça va dans les deux sens.
Le papier toilette pendant le Covid.
Le papier toilette pendant le Covid, parfait exemple, exactement. Et donc ça va dans les deux sens, hein. Donc là, attention, on n'est pas en train de parler d'intelligence collective, on est en train de parler de ce moment où un collectif va basculer d'un côté ou d'un autre. Et évidemment, si on arrive à comprendre ce qui se passe, eh bien, est-ce qu'on pourrait pas le faire basculer du bon côté ? Ça commence à devenir des questions un petit peu profondes, même peut-être même dangereuses, parce que si on maîtrise cette science, est-ce qu'on pourrait pas faire basculer une société vers une révolution, etc. Vous voyez où je veux en venir. Je sais pas, heureusement ou malheureusement, je sais pas. On n'a pas encore la réponse. C'est une science qui est assez complexe et assez récente aussi, mais d'année en année, on a de plus en plus d'éléments de réponse. Donc le problème qu'on se pose, c'est que vous avez un groupe d'une population, un groupe de gens, et en général, les gens aiment bien faire comme leurs voisins. En tout cas, s'il y a un nombre suffisant de gens qui font quelque chose autour de vous, vous allez avoir tendance à faire pareil. Et imaginons qu'un petit groupe de gens se mette à faire quelque chose, eh bien les voisins vont en faire pareil, puis les voisins des voisins, et au bout d'un moment, bah, tout le monde va faire pareil. Et donc le point de bascule est atteint. Et tout le groupe passe. On étudie beaucoup ça avec les holas, parce que c'est un cas qui implique pas grand chose, très simple à étudier dans les stades, où on se demande combien de personnes il faut justement pour lancer une hola. On essaye avec 3, ça part pas, on essaye avec 5, 10, 15, 20, 25, et à 30, c'est parti, et ça part dans tout le stade. Donc là, on a eu ce point de bascule à 30 personnes qui est apparu, mais pour les holas, pour des choses comme des révolutions, c'est plus complexe.
Parce que ça pose la question, et vous la posez dans votre ouvrage, comment influence-t-on l'opinion collective ? Parce que dans une collectivité, justement, il y a moyen de manipuler.
Oui, on peut très, très facilement manipuler les opinions. D'ailleurs, c'est de plus en plus un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux, hein. Ça devient finalement pas si difficile que ça de manipuler l'opinion dans un groupe de gens. Il faut les exposer à des informations encore et encore. Nous, on a un biais où quand on voit une information qui arrive d'un côté, puis d'un autre, puis encore d'un autre, on a tendance à croire que elle doit être vraie puisqu'elle arrive de différents endroits. Mais souvent, c'est la même source en fait qui s'est juste multipliée et qui nous arrive à droite et à gauche, et du coup ça te donne l'impression que c'est une opinion dominante et on va avoir plus tendance à l'adopter. Ce sont des vraies études, hein, qui sont connues déjà en psychologie sociale depuis les années 50 avec des expériences comme celle de Solomon Asch. Ce sont des expériences très simples, hein, où vous faites venir un groupe de gens et en fait dans ce groupe de gens, disons qu'ils sont 10 personnes, et bien en fait il y en a 9 qui sont des complices, qui ne sont pas de vrais participants. Il y a un seul vrai participant, et vos 9 complices, vous leur demandez de se coordonner pour donner une mauvaise réponse les uns après les autres, et au bout de la 9e, c'est le tour du vrai participant, et on va voir s'il va donner la bonne réponse ou il va se laisser aller à à suivre les 9 précédents, la plupart du temps on se conforme à l'avis majoritaire. La pression sociale est beaucoup plus importante que ce qu'on peut imaginer, même si on a l'impression d'être un électron libre.
En même temps, vous nous dites que le jugement de la foule n'est pas toujours fiable, hein, et vous reprenez notamment cet exemple qui est encore relativement connu de cette émission télévisée qui veut gagner des millions. Vous nous expliquez qu'un jour un des candidats est confronté à une question qui somme toute pourrait en dehors du jeu et de ce carcan du jeu et de la pression du fait que il fallait gagner de l'argent, n'importe qui, il aurait probablement pu y répondre, mais dans ce cadre là un peu particulier, c'est compliqué. On lui demande qu'est-ce qui tourne autour de la Terre, qu'est-ce qu'elle est le satellite de la Terre, et il a plusieurs réponses possibles et il a un doute, et donc on lui propose de faire appel au public, et le public est partagé entre deux réponses, et la majorité répond une mauvaise réponse, il va suivre la majorité et donc s'effondrer. Vous montrez par là et par les expériences ensuite que vous allez mener que le jugement de la foule n'est pas toujours fiable et que donc effectivement il faut quand même garder une espèce de posture de réflexion, en tout cas de méfiance ou d'attention par rapport à ce qui se passe autour de soi, y compris en intelligence collective.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit le jugement de la foule n'est pas fiable, il manque une info. C'est quoi le jugement de la foule, en fait? Comment on va mesurer le jugement de la foule? Et là, ce qu'on fait implicitement, c'est qu'on va mesurer le jugement majoritaire. On va se dire, est-ce que la majorité a raison? C'est pas exactement le jugement de la foule, hein, c'est le jugement majoritaire. Et il y a énormément de cas où le jugement majoritaire est faux. D'ailleurs, nous, on s'amuse à faire passer des questionnaires où on sait que la majorité se trompe, on le sait, on le fait à l'avance, on sait. Et on fait passer le questionnaire, ce qui nous permet de tester d'autres méthodes pour voir si on peut éviter ces problèmes où le jugement majoritaire est faux. Donc typiquement, nous, on utilise des quiz capital. Alors les quiz capital, ça marche très très bien. Il y a plein de pays qui sont des faux amis où la plus grande ville n'est pas la capitale. Hein. Et ce sont des quiz comme quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire. Et vous avez la majorité, je suis sûr que la majorité de nos auditeurs ont la même réponse en tête. Je fais du